Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
De ton corps où tu es malade, car Dieu agit puissamment au milieu de nous. De là où tu es, tu n'as même pas besoin de venir devant. Si seulement tu appliques ta main sur le lieu de la maladie avec la foi, aujourd'hui Dieu te guérit. Jésus-Christ te guérit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour toutes les personnes, Seigneur, présentes ici, celles qui sont connectées à cette œuvre. Et même celles qui écoutent cet enseignement, Seigneur, par audio ou vidéo. Seigneur, merci. Parce que, quelle que soit la maladie qu'elles ont aujourd'hui, que l'onction de guérison descende sur eux. Que l'onction de guérison les touche au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie qui a pu être diagnostiquée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es le médecin au-dessus de tous les médecins. Et aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu guéris, Seigneur, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, Seigneur. Au son de nos voix, que l'onction des guérisons parcourt maintenant au sein de ton peuple. et guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Du Saint-Esprit, pour ceux qui font au milieu de nous. Béni sois-tu, Père. Oh, est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit? Alléluia! Béni sois-tu, Père. Seigneur, merci. Merci pour les miracles que tu fais au milieu de nous, pour les prodiges que tu as accomplis. Que la gloire revienne à Jésus-Christ seul pour tout ce qui sera fait dans cette église. Au nom de Jésus, conduis encore ces temps, inspire-les et glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort? Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pouvons prendre place. Bienvenue à la maison du bâtisseur. Je voudrais que tu te tournes vers au moins deux personnes et que tu lui dises, parlementaire de Christ, sois le bienvenu à l'ambassade. Non, tu es trop mou. Lève-toi et va vers au moins quatre personnes et dis-leur, parlementaire de Christ, bienvenue à l'ambassade. Quand les ministres se retrouvent, ils se saluent. Parlementaire de Christ, bienvenue à l'ambassade. Bienvenue à l'ambassade.
Bibles, bien-aimés. Prenons nos Bibles tous ensemble. Nous allons entrer dans la parole. Merci Seigneur pour la parole. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir comprendre les révélations qu'il nous donne au travers de sa parole. Nous sommes pour ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui sont avec nous chaque dimanche, savent que nous sommes sur le sujet, notre très très grande aventure intitulée « La révélation du royaume de Dieu ». Et nous avons commencé à dire beaucoup de choses, nous disons beaucoup de choses et depuis plusieurs jours nous parlons du mystère de la sagesse. Dis avec moi le mystère de la sagesse. À qui ce message fait beaucoup de bien? Vous pourrez écouter ça, je vous assure. Moi je ne sais pas, mais j'espère vraiment que ce sont les bien-aimés de la maison du bâtisseur ici qui se réjouissent en premier de ce que nous recevons. Moi le premier, je suis même parfois étonné de ce que Dieu nous inspire. Mais je vois que ces séries d'enseignements font beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et si aujourd'hui nous insistons autant sur la sagesse et sur le sujet de l'argent, c'est parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, 2017 ça va être fort. 2017 ne peut pas être fort sans que l'argent soit impliqué. 2017, il y a des percées financières que tu es appelé à avoir au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut te préparer. Dans le royaume de Dieu, le loto, ça n'existe pas. Hein? C'est que dans le monde. Donc, tu dois te préparer en circonstance parce que ça va arriver. Parce que Dieu est en train de se préparer une église sage, une église intelligente, une église forte et une église financièrement puissante. Dis avec moi, amen. Alors, il faut que l'on ait l'intelligence financière. Comprendre ces choses-là. Amen. Une vie chrétienne prospère, abondante. C'est une vie chrétienne avec finances qui se portent bien. Et Dieu m'a donné l'instruction d'enseigner à son église sur toutes ces choses-là qu'il m'a enseignées à moi personnellement dans ma vie depuis des années. Amen. Moi aussi, tout ce que j'enseigne, ce sont des choses que je m'efforce d'appliquer. Il y en a que je mets beaucoup en pratique, d'autres, le Seigneur m'amène encore de gloire en gloire. Mais maintenant, il est temps maintenant qu'on transmette ça à l'église, pour que l'église soit forte. Parce que la pauvreté, elle n'a pas sa place dans l'église. Problèmes financiers, ils n'ont pas leur place dans l'église. Si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, alors la richesse va suivre aussi. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Ah. Allez, prenons nos Bibles. Dans le livre de Ecclésiaste, nous parlons toujours de la couronne du roi, parce que la couronne du roi est le deuxième attribut que nous sommes en train d'étudier, qui symbolise le pouvoir. On rappelle, le sceptre symbolise l'autorité, couronne le pouvoir et l'encensoir l'influence. Et nous insistons sur la couronne. Et là, nous allons maintenant toucher un autre point. Enfin, nous allons rester dans la continuité de ce que nous avons commencé dimanche dernier. Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste au chapitre 7 au verset 12. Même si je sais que c'est affiché au mur, prends quand même ta Bible avec toi. Et tu surlignes ça avec un stylo, le verset que nous allons lire. Chapitre 7, au verset 12, il est écrit ceci. La protection, dis avec moi la protection, offre la sagesse et comme celle que procure l'argent. Mais la sagesse a un avantage. Elle fait vivre ceux qui la possèdent. La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Et la sagesse a un avantage, elle fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. Et dans le cadre de notre volet intitulé « Combattre pour libérer notre potentiel », nous sommes sur le sujet de la sagesse et nous allons continuer. La semaine dernière, j'ai ouvert une parenthèse en nous parlant du chemin vers la liberté financière et la richesse sur la base des principes bibliques. Alléluia. Et il y a un certain nombre de piliers que j'ai cités. J'ai parlé du processus divin. Pouvoir acquérir la richesse dans la vie. D'accord? Et ce processus divin était composé de plusieurs piliers. Je vais les montrer tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le deuxième pilier parce que le premier pilier que nous avons touché la semaine dernière, c'était le sujet de la dîme. Dis avec moi la dîme. La dîme est très importante. La dîme est l'un des sujets où il y a beaucoup d'incompréhension dans l'Église. Car la dîme est un sujet à problème. Beaucoup de gens sont allés dans des églises où ils se sont fait arnaquer, ils se sont fait dépouiller, déshabiller, voler. Donc, qui sortent de ces églises très frustrés en disant que la dîme, c'est du diable, c'est pas de Dieu. Et ils ne veulent plus donner leur dîme. Pourtant, la dîme est une instruction divine qui est biblique. D'autres se sont levés un beau matin, soi-disant Dieu leur a parlé que la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. La dîme n'est pas dans l'Ancien Testament, la dîme est même avant l'Ancien Testament. La dîme était présente en Éden. Lorsque Abel récolte les fruits de ses champs, il apporte, la Bible dit qu'Abel a apporté les prémices. Il n'y avait pas Moïse à cette époque-là. Abel a été conduit par l'Esprit pour apporter les premiers fruits de sa récolte à Dieu. Lorsque son frère Caïn a d'abord pris le temps de se faire plaisir et ensuite a apporté sa récolte à Dieu. Et Dieu a dit que son offrande n'était pas bonne. Mais il y a également Abraham. Abraham qui, après avoir remporté la bataille contre Sodome et Gomorre, le roi de Sodome vient voir Abraham et lui dit, prends pour toi toutes les richesses et les hommes tu me les donnes. Abraham dit, je ne prendrai rien de toi. D'accord? Et plus tard, il y a une théophanie, il y a Melchisédek, roi de Salem, qui vient voir Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham a pris la dîme de tout et le donna à Melchisédek. Personne n'avait dit à Abraham de le faire. Il a été conduit par l'Esprit pour le faire. Mais lorsque le peuple d'Israël se fait délivrer de l'Égypte, Dieu, pour mettre de l'ordre dans le peuple, instruit à Moïse d'écrire des lois. Parce qu'un peuple sans loi, c'est un peuple qui vit dans l'anarchie. Donc, Dieu instruit Moïse et Moïse écrit les 10 commandements et toutes sortes de lois qui ont donné naissance à plusieurs livres du Pentateuque. Pentateuque, pour ceux qui connaissent un peu la théologie, c'est comme ça qu'on appelle les livres de l'Ancien Testament. Théronome, Nombre, Lévitique, etc. qui sont des livres très très juridiques, etc. D'accord? Et dans ces livres-là, il y a toutes sortes de lois auxquelles les Juifs devaient obéir. C'était l'ancienne alliance que les peuples d'Israël avaient avec Dieu. Lorsque Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ donne une parole très importante parce que Jésus-Christ avait une attitude qui souvent remettait les gens, qui intriguait les gens parce qu'on avait l'impression qu'il violait la loi. Parce que les Juifs obéissaient strictement à la loi et Jésus-Christ avait des comportements tels que guérir les gens le samedi. C'était Shabbat. D'accord? Donc Shabbat, pour eux, dans leur esprit, on ne faisait vraiment mais rien du tout. Il fallait juste rester au lit. On pouvait voir quelqu'un crever dans la rue, on s'en fout, et c'est Shabbat. Jésus-Christ leur dit, mais non, le cœur du Père n'est que miséricorde. Et mais la loi dit qu'on ne fait rien Shabbat. Il dit, mais la loi dit qu'on ne fait rien Shabbat. Vous dites qu'on ne doit pas guérir, on ne doit pas guérir les gens. Mais pourtant, vous prenez bien votre âne pour aller lui faire, pour aller lui donner à manger le jour du Shabbat. Donc le cœur du Père n'est que miséricorde. Et je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. À la loi à laquelle vous obéissez tous les jours, là, je suis la loi. Amen. Donc, les Juifs, leur loi, c'était un livre, la Torah. Dans ce livre, il y avait toutes les lois auxquelles ils devaient obéir. Jésus-Christ, auquel nous croyons, il est la loi. Dis avec moi, Jésus est la loi. Jésus est la loi du royaume. Donc, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, cette loi, par la foi, s'accomplit dans sa vie, s'imprègne dans sa vie. Donc tout ce qui est écrit dans cette loi, elle est maintenant imprégnée dans notre esprit par la foi. Donc on ne peut pas rayer ce qu'il y a dans la loi. On doit toujours y obéir. Amen. Et seul changement qu'il y a, c'est que les Juifs avaient des traditions. Donc ces traditions, ça reste, elles restent juives. D'accord? Mais nous sommes issus de la race des gentils, c'est-à-dire des païens. Et nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Dieu nous prend et Dieu nous greffe à l'arbre. Amen. Parce que la Bible dit que Israël, c'est le peuple de l'Alliance, le peuple qui avait été choisi. Vous n'êtes pas de ce peuple-là. Mais par la foi, aujourd'hui, Dieu a choisi d'inclure dans cette alliance toute personne, de toute langue, de toute race, de toute tribu. Donc, par la foi, aujourd'hui, quand nous croyons en Jésus-Christ, cette loi s'accomplit. Et dans cette loi, il y a la loi de la dîme. Amen. Ça, c'est un problème parce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre que l'une des lois importantes de la prospérité sur le chemin de la richesse, c'est la dîme. Amen. Nous avons touché ce point-là et nous avons dit beaucoup de choses au sujet de la dîme. Je ne vais pas y revenir. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur un autre point de notre compartiment sur la protection. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils vont comprendre. Sur l'épargne, dis avec moi l'épargne. Parce que tout simplement, il faut épargner de manière sage et intelligente pour avoir une vie saine et durable. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le processus divin que nous avons touché la semaine dernière était composé de trois compartiments. Le premier, qui symbolisait la protection, d'un point de vue spirituel, c'est le premier pilier, c'est la dîme. Et d'un point de vue naturel, Dieu nous fait comprendre que vous devez marquer votre protection, vous devez bien vous protéger au travers de l'épargne que vous avez. Parce que Dieu, par sa grâce, met entre nos mains de l'argent tous les jours. Le problème que Dieu a avec nous, c'est que nous ne savons pas gérer cet argent. Nous n'avons pas l'intelligence financière pour bien gérer notre argent. Le non-croyant, celui qui ne connaît pas Jésus, ne connaît pas ses principes spirituels qui touchent à la dîme. Donc, il se contente d'épargner son argent. Et la Bible dit que celui qui ne fait qu'épargner, mais qui met Dieu en dehors de ses finances, il est sujet à toutes sortes de malheurs. Parce que tout simplement, il n'a pas la protection divine. Donc, la protection divine de nos finances commence d'abord par la dîme. J'ai dit la semaine dernière que la dîme était la garantie ou encore la cotisation de notre sécurité sociale dans le royaume des cieux. Donc, quelqu'un qui veut avoir la faveur et qui veut être protégé au niveau de ses finances, mais aussi au niveau de sa santé, il doit toujours se souvenir que la dîme passe en premier. Amen. Mais Dieu dit que ce n'est pas juste ça, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui donnent leur dîme et qui n'épargnent pas. Donc le problème c'est quoi? C'est que ces gens au niveau spirituel, ils sont bénis. Mais quand Dieu veut maintenant travailler dans leur vie, ils se rendent compte que leur compte bancaire est vide. Dieu ne travaille jamais à partir de rien. Il va toujours prendre quelque chose que tu vas d'abord lui donner et ensuite il va le multiplier. C'est pour cela que quand Jésus-Christ dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger, il dit, Seigneur, nous n'avons rien. Il dit, qu'avez-vous? Juste du pain et deux poissons. Ok, c'est bon pour commencer. As-tu? Seigneur, j'ai rien. Je n'ai que 50 000 francs dans mon compte bancaire. C'est bon, on va commencer avec ça. Seigneur, on ne peut rien faire avec 50 000 francs. Je peux acheter une maison, je ne peux rien faire. À part juste payer mon taxi du mois, je ne peux rien faire. En général, tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est le compartiment que nous allons toucher la semaine prochaine. Il va te dire, planter, tu sèmes ça. Tu vas dire, ah, Dieu, là, tu me tues. Dieu va dire, non, je ne te tue pas, je multiplie. Amen. Donc, au niveau spirituel, notre garantie, notre protection, elle se fait au sujet de la dîme, mais au niveau naturel, dans la vie de tous les jours, épargne. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, on a un deuxième compartiment que nous ouvrirons la semaine prochaine qui concerne l'investissement. Dis avec moi l'investissement. Et l'investissement au niveau spirituel, parce que Jésus-Christ a dit, construisez-vous des trésors dans les cieux, là où la teigne et la mythe ne peuvent pas ronger. D'accord? Donc, au travers de nos semences et de nos offrandes, nous semons dans le royaume. Okay? Mais sur la terre, Dieu dit aussi que sois sage et intelligent. Et avec ton argent, fais aussi des investissements. Et avec la faveur de Dieu, ces mêmes investissements vont prospérer. Ça va être très, très intéressant l'aspect sur l'investissement. Il y en a, vous allez vous sentir un peu dépassé, mais ce n'est pas grave. Je vous prépare pour tard. Amen. Et la dernière partie, c'est celle des dépenses, naturellement. Okay? Parce que nous avons aussi des dépenses dans la vie. Ce compartiment-là n'a pas de pilier. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, nous ne dépensons pas, puisque tout est à nous. On ne dépense que dans le monde. Okay? Mais dans le royaume, nous sommes rois et tout est gratuit. Tout est à nous. Amen. Est-ce qu'on me suit? Je vais vous faire un peu une petite mise à jour. Donc, il est important de comprendre cela. Maintenant, nous allons parler du deuxième pilier du compartiment de la protection, qui est l'épargne. Dis avec moi l'épargne. Et pour cela, on va lire une petite histoire. Tu vas prendre avec moi ta Bible dans le livre de Luc, au chapitre 16. C'est une histoire assez intéressante. Livre de Luc, au chapitre 16, verset 1. On va lire un peu. Il est écrit ceci. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. Dis avec moi un homme riche. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière et moi. Je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une histoire intéressante, non? De quoi est-ce que Jésus-Christ nous parle ici? Eh bien, Jésus-Christ, quand vous prenez ce passage dans la Bible, Jésus-Christ donne cette parabole après la parabole des talents, des mines. Où il a raconté l'histoire de trois personnes à qui il avait remis des mines. Et deux ont rapporté 10 mines et 5 mines pour le deuxième. Et le troisième n'avait pas su faire fructifier cet argent. Et Dieu l'a traité de méchant serviteur. Et ensuite vient cette parabole-là, où Jésus-Christ, cette fois-ci, fait un focus sur notre capacité à bien gérer notre argent. Alléluia. Et il salue le comportement de cet intendant-là, l'histoire, en disant que les gens du monde sont plus intelligents, souvent, que les enfants de Dieu, dans leur manière de gérer leur argent. Parce qu'en fait, les enfants de lumière, ce sont eux qui sont censés être très prospères et qui sont censés bien connaître les lois de gestion financière. Et ce qu'on retrouve, c'est quoi? C'est que les gens dans le monde sont plus sages et gèrent mieux leur argent que les enfants de Dieu. Parce que quand on arrive à l'église, on trouve la plupart du temps des chrétiens fauchés qui n'ont pas d'argent, qui ne savent pas gérer l'argent et qui ne prospèrent pas financièrement. Alléluia. Et Dieu dit, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème. Car il y a toutes sortes de mensonges qui véhiculent dans l'église qu'on ne doit pas s'intéresser à l'argent. Mais qui vous a dit ça? Qui a dit qu'on ne doit pas s'intéresser à l'argent? Il faut s'intéresser à l'argent. Il faut comprendre l'argent. Il faut s'instruire sur les lois financières. Il faut rentrer dans le monde de l'argent. Car l'argent ne vient que vers les gens qui s'intéressent à lui. Celui qui ne s'intéresse pas à l'argent, c'est le pauvre. Malheureusement, l'église de Christ, excusez-moi de le dire de manière aussi crue, l'église de Christ est remplie de pauvres. Pourtant, nous sommes des enfants de haute naissance. Nous appartenons à une famille très riche. Notre Père est très riche et il attend de nous que nous ayons la sagesse dans la gestion financière. Amen. Donc, l'argent, c'est aussi très spirituel. Parce que l'argent est un mystère. Si l'argent n'était pas un mystère, ce serait facile de l'acquérir. L'argent, c'est un mystère. Il faut rentrer dans ce monde et il faut le comprendre. Et bien aimé, je vous annonce aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'il faut vous intéresser à l'argent de manière très sérieuse, car la vie passe très vite. 60 ans, ça sonne très vite. Si vous ne vous intéressez pas à l'argent, si vous ne commencez pas à planifier votre vie financière, vous finirez pauvre. Tourne-toi vers quelqu'un et tu dis, planifie ta vie financière. Sinon, tu finiras pauvre. Bien aimé, comme il est facile de s'enrichir, il est tout aussi facile de finir pauvre. Je vous assure. Comme la blague. Les années passent et vous vous rendez compte que depuis des années, vous n'avez toujours pas d'argent. Il y en a, vous avez déjà dépassé l'âge de 20 ans. Vous commencez déjà à planifier votre vie financière pour construire votre maison. Parce que 40 ans, ça sonne très vite. 50 ans, ça sonne très vite. Il faut déjà vous préparer déjà pour ça. Vous avez commencé à avoir des enfants, planifiez très vite vos finances pour préparer l'école de vos enfants demain. Parce que quand votre enfant va sortir premier de sa promotion à Libreville après le bac et que le président de la République va le recevoir au palais pour lui dire félicitations petit, il y Et ensuite, il va rentrer à la maison en vous disant, maman, je veux aller au MIT aux États-Unis. Tu vas dire, j'ai pas l'argent pour t'envoyer là-bas. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as foutu toute ta vie, maman? Comment tu peux me parler comme ça? Mais tu n'as rien foutu de ta vie. Tu as 45 ans, 50 ans sur la terre et tu n'as pas réussi à mettre un petit pécule de côté pour mon école. C'est pas possible, ça. Comment on peut venir dans une famille avec des parents qui ont vécu toute la vie, qui ont fait la bringue et qui n'ont même pas pensé une minute à mettre un peu d'argent de côté pour moi? Ça, c'est une malédiction, ça. Désolé encore de le dire de manière aussi crue, c'est une malédiction. Car un enfant n'est pas censé vivre les problèmes que ses parents ont connus. Les parents sont censés préparer le chemin de leurs enfants pour que les enfants soient à l'aise, n'aient pas les maux de tête en allant à l'école. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne fait que perpétuer les malédictions qui sont dans nos familles. On est né dans des familles pauvres, on ne s'est pas intéressé à l'argent, et puis nous-mêmes, on est pauvres, on grandit pauvres, on fait des enfants dans la pauvreté, et nos enfants continuent, répètent le cycle. Vous me suivez? Donc, tu dois te préparer en ces jours où tu es encore en très bonne santé, où tu travailles, où tu fais rentrer de l'argent tous les mois. Tu as toutes sortes de dépenses, toutes sortes de charges, tu as des projets, mais pense aussi à tes enfants. Tes enfants, demain, seront en âge de voyager, d'aller étudier à l'étranger. Car je vous assure que je suis très inquiet de l'éducation dans notre pays. Donc, quand ton enfant va se pointer en te disant « Maman, je veux aller étudier en France, je veux aller étudier au Canada, parce que ici, ça ne m'inspire rien de bon », faudra que tu puisses dire « Sans problème, je t'envoie en France, je t'envoie au Canada, parce que depuis 15 ans, j'ai déjà réservé l'argent de tes études. » Alléluia. Il y en a qui va dire « Oh, si j'avais un parent comme ça, vraiment. » Pasteur, ce que tu dis là, c'est trop high. Vraiment, nous au Gabon, pasteur, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais pourtant, c'est possible. Il y a des parents qui vivent comme ça ici. Il y a des parents qui ont déjà préparé l'avenir de leurs enfants. Amen. Il fit l'éloge de cet intendant là qui gérera bien son argent. D'accord? Et je vais me focaliser aujourd'hui sur l'intendant. L'intendant, c'est qui? L'intendant, nous identifie à lui, c'est celui qui gère, nous dit la Bible, les mystères de Dieu. Quand je vous ai dit que l'argent est un mystère. L'intendant, ici en grec, dans ce texte, c'est le mot grec oikonomos, qui veut dire économe, chargé de gérer un budget qu'on lui a confié, un administrateur, un gérant ou encore un trésorier. Donc quand la Bible t'appelle intendant, elle parle d'abord de l'argent. Parce que les chrétiens SS, les super spirituels, sont toujours en train de tout spiritualiser en disant mission par rapport à l'argent. On parle des choses de Dieu. Tu vois, non? On parle d'argent ici. D'accord? L'intendant, c'est celui qui gère le business de Dieu. Et personne ne peut gérer un business sans gérer de l'argent. Donc, tout ce qui touche à Dieu est un business. Et tout ce qui touche à Dieu, l'argent est aussi impliqué là-dedans. Donc, si tu veux rentrer dans les choses de Dieu, si tu veux grandir dans ta marche avec Dieu, tu dois avoir une intelligence financière parce que tu vas mettre de l'argent entre tes mains. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur l'intendant. Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, on est disqualifiés devant le Seigneur parce qu'on ne sait pas gérer l'argent. L'intendant, oikonomos, c'est l'économe. C'est une personne employée par une personne riche pour diriger sa maison ou encore administrer sa fortune. Et notre administration, elle commence d'abord au sein de notre premier ministère, notre foyer, notre maison. Amen. Beaucoup d'entre nous, on vient ici, on dit au Seigneur, « Seigneur, je veux te servir, je veux entrer dans le ministère, je veux accomplir des choses pour toi. » Dieu dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Dieu regarde ce que tu fais à ta maison et comment tu gères ton argent. En regardant comment quelqu'un gère son argent, on a une très très bonne idée du genre de personne que c'est. Et ça nous permet de déterminer si cette personne est qualifiée ou pas. Alléluia. Donc l'argent est un mystère et seuls ceux qui comprennent ses secrets et comment l'attirer, ils peuvent en bénéficier. Celui qui ne comprend pas l'argent, celui qui ne sait pas gérer l'argent, il n'est pas qualifié devant le Seigneur pour le servir. Amen. Regardez tous les gens qui font des exploits avec le Seigneur dans le monde. Ce sont des gens qui ont de l'argent. Parce que le business de Dieu fonctionne avec l'argent. On ne peut rien accomplir sur cette terre sans argent. Donc, moi, je trouve que c'est une hérésie dans l'Église croire que l'église peut accomplir des choses ou changer le monde sans argent. Qui vous a appris ça? Le monde dehors est influencé par les gens qui ont l'argent. Quand j'ai travaillé en France pendant 8 ans dans le domaine de la finance, et à cette époque-là, je ne connaissais pas beaucoup de choses, j'ai pu quand même apprendre quelques leçons. J'ai vu des jeunes non-croyants de 25 ans gagner 1 million d'euros par mois. 655 millions de francs CFA par mois à 25 ans, le gars. Le petit, il est trader en bourse, dans une grande banque. Il roule en Ferrari ou en Maserati. Tous les matins, il va travailler à l'école et il engrange des millions d'euros pour ses clients. Ses clients sont tellement contents que chaque fin du mois, on lui donne 1 million d'euros. Tu dis ça, moi je suis chrétien, lui n'est pas chrétien, il y a un problème quelque part. Moi je prie le grand Dieu tous les jours. La différence entre lui et toi, c'est que lui, il a développé une intelligence financière. Tu n'as pas. Alléluia. J'étais devant ma télévision en début de semaine et puis j'étais en train de regarder un documentaire sur le football. Et puis là, le commentateur commence à donner les noms des joueurs les mieux payés du monde en football. En France, plutôt. Et puis là, on cite le nom d'un joueur du PSG, Paris Saint-Germain. Et quand on donne son montant, traduire en francs CFA, ça se montait à 5,5 milliards par mois. C'est ce que le gars touche, l'un des joueurs phares du PSG. Par mois! J'ai dit, mais j'ai seulement crié. Non, j'étais dans la voiture avec le chauffeur. Et puis j'ai attrapé le chauffeur. Mais comment il peut avoir autant d'argent, le gars? Par mois! Il fait quoi avec tout ça? Il fait rien avec. Il excelle juste dans son talent. Il n'est pas chrétien. Et puis nous, on arrive à l'église, et puis le pasteur vous dit, il ne faut pas vous intéresser à l'argent, ça. C'est diabolique. Ah, c'est toi qui es diabolique, ça. Vraiment. Donc, il faut comprendre l'argent. Mais rappelons-nous toujours que l'argent prend la couleur du cœur de celui qui le possède. D'accord. Si tu as un cœur pour Dieu, ton argent servira pour l'œuvre de Dieu. Une chose est sûre, c'est que tu dois t'intéresser à l'argent. Et l'église est là où elle est parce qu'elle a rejeté l'argent. Alléluia. Donc l'intendant, c'est l'économe, celui qui gère la fortune qu'on met entre ses mains. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 dit « Comme de bons intendants, oikonomos encore, des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que Dieu vous a donné, celui que vous avez reçu. » La version parole vivante dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins que Dieu fait chaque jour. Et dans l'année, Dieu souvent met de l'argent entre tes mains. Le problème, c'est qu'on le gère mal. Et comme a dit Jésus dans la parabole, si tu es trouvé fidèle dans les petites choses, on te confiera les grandes. Si tu es trouvé fidèle dans ce qui n'est pas à toi, demain on pourra te confier ce qui est à toi. Car c'est en voyant ta capacité à gérer l'argent des autres que l'on voit si tu es capable de gérer ton propre argent. Et je t'annonce aujourd'hui que si Dieu n'a pas encore mis entre tes mains la richesse qui est à toi, c'est parce que tu n'as pas encore su bien gérer l'argent qu'il a mis entre tes mains, l'argent des autres. Amen. Quelqu'un va me poser une question en me disant, mais pasteur, moi vraiment, je n'ai pas souvent beaucoup de choses. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent et je ne vois pas à quel moment Dieu m'a testé ou Dieu m'a testé pour savoir si j'étais capable de bien gérer l'argent ou pas. Eh bien, j'étais en train de regarder, de lire, de méditer sur le livre des Proverbes cette semaine. Je ne me rappelle plus de la référence, je crois que c'est Proverbes. Non, je crois. Et il y avait un verset qui disait que le sage, c'est celui qui gagne beaucoup d'âme. Et là, le Saint-Esprit me dit, stop, tu vois, fils. Eh bien, s'il y a bien une chose que je mets entre les mains de mes enfants pour estimer s'ils sont capables de gérer mes affaires demain, ce sont les âmes. Quand le Seigneur met entre nos mains des gens et qu'on ne sait pas s'en occuper, je dis, si tu n'es pas capable de t'occuper des âmes que je mets entre tes mains, tu ne seras pas capable de t'occuper de l'argent. Alléluia. Et souvent, Dieu nous examine, Dieu nous teste à travers des gens qu'il met entre nos mains. Parce que plus mieux tu sauras gérer ce que le Seigneur mettra entre tes mains, y compris les âmes, plus facile, plus simple sera pour lui de te donner de l'argent demain. Parce qu'avec cet argent, il te demandera de faire un certain nombre de choses. Tu me suis? Si tu me suis fait comme ça. Un intendant, s'il y avait une chose qui caractérise un intendant, c'est la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Et s'il y a bien une chose qui doit caractériser un enfant de Dieu, c'est la fidélité. Oh bien-aimé, dis encore avec moi la fidélité. S'il y a bien une maladie qui gangrène l'Église, c'est l'infidélité. Les gens sont infidèles. Les gens sont infidèles. Celui qui a trouvé un homme fidèle, il est heureux. Et la fidélité est plutôt l'épargne, se gère de manière fidèle. Alléluia. Notre capacité à bien garder notre argent démontre notre qualification dans le ministère. La fidélité d'un bon intendant, d'un bon économe, ou économos, d'un bon administrateur se voit dans sa capacité à économiser l'argent. Dis avec moi, économiser l'argent. Aujourd'hui, je vais te faire mal à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tu vas te demander pardon à Dieu aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, j'ai vraiment mal géré ton argent. Vous allez voir que quand on va étudier le sujet de l'investissement, je vais beaucoup insister sur un point, c'est l'intelligence financière. Dis avec moi l'intelligence financière. Qu'est-ce qui caractérise l'intelligence financière? Eh bien, être intelligent financièrement, c'est avoir la capacité, c'est savoir garder l'argent. Parce que tu vas te rendre compte d'une chose, je pense que vous l'avez déjà tous vécu, c'est que quand tu reçois de l'argent, tout d'un coup, tu ne sais pas d'où ça vient, tu as une pression qui tombe sur toi pour que l'argent reparte. Il y a tout un tas de choses qui arrivent pour que tu dépenses ton argent. Tu sais que tu as des charges, hein, et bizarrement, c'est quand tu reçois l'argent que là, maintenant, la pression monte. Tu dois me donner mon argent. Loyer. Seigneur, j'ai trop de problèmes. J'ai eu l'argent. Tu sais, l'argent, il est comme ça. Il a envie de partir. Et tu es en train de le retenir. Et quand tu reçois beaucoup d'argent, tout d'un coup, tu as aussi un désir qui monte en toi de le dépenser. Tu vas te mettre à... Oh, il y en a... Oh, là, si je mets entre vos mains là 300 millions de francs CFA, oh, vous allez devenir fou. Oh! Là, dès qu'ils voient l'argent, ils deviennent ma boule. Oh! Vraiment! C'est comme si il y a eu un bug dans son esprit, quoi. Oh! Ça te fait une hausse de tension d'un coup, tu as juste... Tu veux exploser. Tant le riche, quand il reçoit de l'argent, il est serein. Il commence à réfléchir comment il va faire fructifier ça. Le pauvre, dès qu'il reçoit l'argent... Bien aimé, comme par hasard, cette semaine, j'étais du côté du centre-ville. Et puis j'ai dit, faut que je m'arrête. J'étais en voiture et j'ai dit, faut que je m'arrête pour pouvoir retirer de l'argent. Donc je me suis arrêté au niveau de Finatra, centre-ville. Je gare et puis je traverse le parking pour aller au Gab. Puis quand j'ai retiré de l'argent, j'ai envie de mettre des unités sur mon téléphone. Là, je commence à demander à un monsieur, où est-ce qu'on peut mettre des unités? Il me dit, faut monter un peu plus haut par là-bas. Là, je passe à côté du PMUG. Il y avait du monde. Et ils étaient tous là, assis par terre sur la route, en train d'écrire, en train de gribouiller sur des papiers avec des chiffres. Peut-être les chiffres de leurs chevaux, je ne sais pas. Mais tu vois qu'ils étaient concentrés, ils réfléchissaient. Hein. Puis il y en a un qui va près de la dame là-bas. Et puis, la dame donne il commence à demander les montants de ce que ça va rapporter, si tel cheval gagne, tel cheval gagne. Et puis, je les regardais. Et puis, elle donnait les montants. Quand elle dit, madame, si celui-là, c'est combien le montant? Elle donne le montant. Et puis quand elle donne le montant, il commence à parler tout d'un coup fort. Mais je te dis, c'est comme si là, quand elle donnait les montants, il y avait quelque chose qui se déclenchait dans son esprit. Et il se dit, non, mais c'est ça qui va gagner. C'est lui qui va gagner. Oh, vraiment, c'est lui qui va gagner. Non, combien? Oh, 3 millions. Non, je sais pas. C'était pas humain. Mais quand tu voyais l'accoutrement du gars, mais c'était un pouilleux, quoi. C'était lequel il avait rien. Tu sens le gars qui est là tous les jours et qui espère un jour qu'il va gagner de l'argent avec cette histoire-là. Donc quand il entend les montants, ça lui fait quelque chose, quoi. Il rêve de gagner ces montants. Donc quand il parle à son compagnon d'œuvre, il est là aussi. Frangin, oh, 3 millions. Non, c'est ça. C'est celui-là qui peut. J'avais pitié. Il disait, oh Jésus, vraiment, il disait vraiment, Seigneur, les gens, voilà donc comment ils vivent. Ils pensent qu'un jour, ils deviendront très riches en jouant à ces choses-là. Alors qu'ils ne savent pas qu'on est en train de les appauvrir et de les accompagner dans leur cercueil. Moi, la fidélité. L'intelligence financière, c'est la capacité à savoir garder son argent des teignes et des mythes sataniques de ce monde. Car il y a tout un tas de choses dans le monde qui te poussent à dépenser ton argent, qui te mettent la pression que tu sortes ton argent. Pourtant, Dieu dit que un oikonomos, un économe, c'est quelqu'un qui sait garder et protéger son argent, voire le faire fructifier. L'épargne, c'est le sceau de la fidélité. Alléluia. L'épargne, c'est le sceau de la fidélité. Le riche, c'est celui qui bâtit des forteresses autour de son argent pour le protéger. Le pauvre est victime des sanctions financières de ce monde, telles que la consommation, les crédits, les futilités de toutes sortes, les distractions, la luxure, les jeux de hasard, les paris sportifs, toutes sortes de choses qui amènent les gens à dépenser leur argent. C'est ce que j'appelle les peines et les mythes sataniques, les sanctions financières de ce monde. Et un enfant de Dieu doit faire très, très attention à toutes ces choses-là. Son monde est. Son argent n'arrive pas dans ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, le riche, c'est celui qui bâtit des forteresses. C'est celui qui sait protéger, qui sait prendre soin de son argent. Il ne dépense pas son argent n'importe comment. Regardez, je vais vous donner une habitude de riche que souvent les pauvres n'ont pas. Hein? Et moi, chaque fois que je le fais, je me reprends. C'est-à-dire, quand tu entres dans un magasin tel que Mbolo ou bien ses cadeaux, que tu t'apprêtes à aller faire tes courses, tu vas te rendre compte que les gens qui ont de l'argent viennent toujours avec une liste et un budget. Les gens qui sont pauvres d'esprit ne viennent jamais avec une liste et un budget. Ils viennent, mais je sais ce que je vais prendre. Tu mets, quand tu arrives à la caisse, oh c'est cher, hein? Non, c'est pas cher. C'est toi qui as mis une touille n'importe quoi dans ton caddie. Pourtant, tu sais que tu as besoin de ces choses-là. Mais quand tu ne calcules pas la dépense, tu as l'impression que c'est cher. C'est pour ça que arrivé à la fin du processus, tu es surpris. Le riche, il n'est jamais surpris à la caisse. Pourquoi? Parce qu'avant de rentrer dans le magasin, il savait combien il allait dépenser. Amen. Moi, quand je rentre dans ces cadeaux et que je n'ai pas de liste et que je commence à acheter des choses et que je prends d'abord le temps de bien regarder les prix, et mon esprit est en train de gagner. Là, je suis déjà peut-être à 15 000, 20 000. Dès que je commence à voir trop de produits qui montent, je dis, oh non, gars, là, ça va me faire cher à la caisse. Je prends mon téléphone, je commence à sortir la calculatrice, puis je commence à compter. Parce que je n'ai pas envie de dépenser mon argent n'importe comment. Hein? Une autre différence entre le riche et le pauvre dans les magasins de ce type, c'est quand ils arrivent à la caisse, et puis à la caisse, souvent les hôtesses ont toujours la chic habitude de dire, monsieur, il n'y a pas de monnaie, pas de pièces. Donc, je vous dois 100 francs. Et alors, tu me donnes mes 100 francs. Mais je n'ai pas de pièces. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en ai à faire? Tu me donnes mes 100 francs. Ah, s'il n'y a pas de pièces, tu peux laisser. Pourquoi je vais laisser? Je te connais, nous. Je connais ces cadeaux. Par contre, donc le riche, il va dire, vous vous débrouillez, vous allez chercher la monnaie, vous me rendez mes 100 francs. 100 francs, c'est de l'argent. Le pauvre, il va faire, ah, c'est bon, cadeau. Oh, cadeau. Tu viens de t'appauvrir de 100 francs. Ah, pasteur, c'est rien, 100 francs. Ah bon? Tu peux t'assurer que le jour où tu n'as pas 100 francs pour le taxi, tu vas te rendre compte que 100 francs, c'est quelque chose. Hein? Donc, on va jouer avec ça. Donc, le riche, il fait très attention à son argent. Une autre habitude qui caractérise, qui différencie les riches et les pauvres, c'est que le riche, souvent, quand il voit des mendiants venir dans la rue lui demander de l'argent, il ne donne jamais. Les pauvres, ils donnent beaucoup. C'est un chef besoin d'argent. Ah, vraiment, tu joues un peu le riche. Tu n'es pas riche, mais tu joues le riche. Tiens, tu viens de t'appauvrir parce que lui, c'est un pauvre qui vient de te bouffer. Il ne faut jamais leur donner l'argent. Pasteur, tu es méchant. Comment tu dis les choses comme ça? Ces gens-là souffrent. Qui t'a dit ça? Il y avait un monsieur, quand on était à Paris, ma femme était venue me raconter ça, elle m'avait fait trop rire ce jour-là. Parce qu'elle me disait qu'il y avait un monsieur, en fait, dans une zone de Paris, quand on allait travailler, il était là tous les jours, matin et soir, à la même heure, il finissait à la même heure. Et il avait toujours son petit pot là où les gens mettaient l'argent toute la journée. Il était là, oh merci, vraiment. Puis un jour, elle allait à la banque. Quand elle est rentrée à la banque, c'était la prostituée, quoi. Elle allait à la banque et puis quand elle arrive au comptoir pour faire une opération, elle trouve le mendiant en question qui vient avec avec un pactole d'argent et puis elle reconnaît le mendiant. Mais ça c'est le mendiant de... Il vient et puis il est contre son argent. Et ça faisait un beau montant que toi tu n'as pas, tu vois. En fait, vous pensez qu'on est en train de l'aider. Non, lui il travaille.
il travaille. Donc, il vous appauvrit. Et il va mettre déposer l'argent dans son. Il avait un compte bancaire avec une carte, un chéquier et tout. Hein. Il n'y avait pas de problème. Hein. Donc les riches, regardent et disent, mais va travailler toi. Mais bon, il travaille. Je donne rarement l'argent aux gens qui demandent l'argent dans la rue. Jamais. Et pour fermer la parenthèse, souviens-toi toujours que quand quelqu'un vient te demander de l'argent dans la rue, tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas dans quoi il a trempé. Quand tu lui donnes l'argent là, c'est un transfert. Au niveau de l'esprit. Si c'est un gars qui est dans les trucs sataniques, là, tu viens d'ouvrir une porte. Parce que moi, j'ai expérimenté des choses trop bien. Ma femme, elle en a eu tellement marre. Elle dit, il faut plus de l'argent. Genre. Parce que toi, à chaque fois que tu donnes de l'argent, on a des problèmes qui rentrent dans la maison. Au niveau de nos finances. Maintenant, je suis devenu un vrai pixou. Pour ceux qui ont fait l'expérience, chaque fois qu'ils viennent nous donner l'argent, après, le pasteur, on a besoin d'argent. Tu as besoin de ça pour quoi? C'est pour faire quoi? Oh, c'est pour. Ouais, mais bon, attention. Hein. Moi, attention. C'est pas, ça veut pas dire qu'on est dur avec l'argent. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait très attention et on veille à ne pas appauvrir les gens en les encourageant dans de mauvaises habitudes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, malgré les dépenses et les charges, notre administration est excellente devant Dieu quand nous arrivons à bien épargner et à protéger notre argent. Et Dieu juge notre fidélité dans notre capacité à gérer correctement notre argent. Et surtout, à savoir le garder. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, il faut garder ton argent. Garder ton argent. Donc l'épargne, c'est le sceau de la fidélité. Et épargner, se résume, pour finir avec cette partie-là. Protéger, dis avec moi protéger. Sécuriser, dis avec moi sécuriser. Garder, dis avec moi garder. Et économiser. Amen. Protéger, sécuriser, garder. Et économiser. D'accord? Ça m'a fait penser à un truc parce que quand j'ai regardé les initiales, j'ai vu PSGE. J'ai dit, oh, il y a quelqu'un qui a fait de ce mot, mon PSGE. Nous aussi, on a notre PSGE, ça. Notre PSGE, c'est protection sécurisée de mes économies. D'accord? Hein? Je protège, je sécurise, je garde, j'économise mon argent. Voici le défi que tu vas avoir en 2017 sur le chemin de la richesse. Tout l'argent qui rentrera entre tes mains. Oh, tu vas dire, pasteur avait dit ça le 25 décembre, le jour de Noël. Yeah. Protéger, sécuriser, parce que la manière dont Satan va attaquer vos finances en 2017. Parce que les choses de l'esprit, ils voient qu'on est en train de comprendre ça. Parce qu'on commence à rentrer dans des dimensions prophétiques. Là, on a des rythmes de prière. Donc, il sait où est-ce qu'on va. Donc, il a compris que quand il tape sur les finances, il sait que ça fait très mal. Tu vas voir que beaucoup d'entre vous, vous allez prendre des résolutions fortes là pour votre vie là. Il va toucher ça. Je vous annonce ça. Donc, préparez-vous. Parce que plus vous allez être bénis financièrement, et plus vos finances vont être attaquées. Il va falloir, comme le riche, bâtir des forteresses pour protéger votre argent. Alléluia. Gloire à Dieu. 1. Épargne, c'est le sceau de la fidélité. Et c'est pour cela que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi donc, on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. En ce qui nous concerne, parole vivante de la Bible nous dit qu'on nous considère comme des simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de gérer les vérités cachées et les plans secrets de Dieu. Or, en fin de compte, demande-toi à des intendants, n'est-ce pas, d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée est de se montrer digne par leur gérance honnête et désintéressée de la confiance qu'ils ont, dont ils sont l'objet. Un mot très important ici, c'est honnête et désintéressé. Désintéressement des choses du monde. Il va falloir abandonner certaines choses, certains plaisirs. Parce que quand tu vas commencer à économiser ton argent, à mettre de côté, tu vas sentir de forts désirs de faire plaisir. Parce que quand tu vas commencer à économiser, je t'annonce, tu vas commencer à avoir des montants importants grimper sur ton compte bancaire au bout de quelques mois. Comme tu n'étais pas habitué à ces montants, tu vas avoir envie de te faire plaisir. Quand tu vas devoir serrer la ceinture et garder l'argent. Amen. Quand c'est 100 000, ça va. Quand c'est 500 000, ça va encore. Quand c'est 1 million, pour certains, ça devient un peu... Et pour d'autres, ça va encore. Je t'annonce que bientôt, tu auras des 5 millions, 10 millions, 15, 20 millions. Et tu devras regarder ça à l'aise sur ton téléphone mobile avec les histoires des mobiles, les BGF mobiles qu'ils ont maintenant. Et tu regarderas ça à l'aise. Protéger, sécuriser, garder. économiser. Hein? Oh, tu sais, non, on va à Dubaï, là. Tu viens avec nous. Oh, protéger, sécuriser. Viens, on va à Dubaï. Oh, les billets de Dubaï, maintenant, c'est 300 000 francs. Tu savais ça? Oh, tu sais maintenant que pour aller à Singapour, c'est plus besoin de visa. Les billets sont à moins de 500 000 pour aller à Singapour depuis Libreville. Oh! Tu as combien sur le compte encore, chérie? Hein? Oh, monsieur, j'ai fait venir une nouvelle marque de vêtements, là. Faites-nous plaisir. C'est combien? Oh, c'est juste 150 000 francs. Il y a combien sur le compte? Il y a 10 millions. Oh, ça va. Je peux me permettre. Protéger, sécuriser, garder, économiser. Ouais. Sage, garde ton argent. Tout à l'heure, quelqu'un dit, garde ton argent. Garde ton argent. En 2017, ça va être fort. Dites-moi, ça va être fort. Pasteur, il est comme un jardinier. Ce qu'il veut voir pousser dans son jardin, il le plante. Et il s'attend à ce que ça pousse. Je suis en train de semer là. Je sème de manière prophétique dans vos vies. Et je m'attends à voir des miracles se produire au niveau financier dans vos vies en 2017. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Amen. Il y a trois raisons. Après, je terminerai par comment est-ce qu'on épargne dans la vie et puis on va prier. Il y a trois raisons principales pour lesquelles Dieu veut que tu épargnes. La première, c'est pour te protéger et sécuriser ta famille. D'accord? Très important. La deuxième, c'est pour te constituer un capital que tu devras ensuite optimiser. On n'optimise pas zéro, on optimise ce qu'on a déjà. Okay? Et la troisième raison pour laquelle Dieu veut que tu épargnes, c'est pour préparer les jours de vieillesse. Parce que les jours de vieillesse, ils arrivent, ils vont arriver. La vie ne se résume pas à 30 ans, 35 ans. Le temps viendra où tu n'auras plus la force de te lever le matin pour aller travailler, où tu ne pourras plus aller visiter les maisons pour louer. Tu ne pourras plus aller demander de l'argent à de la famille, car tu vas te rendre compte que souvent quand on demande de l'argent aux gens, ils n'en ont pas, bizarrement. Même les gens que tu aimes. Donc Dieu dit, prépare-toi, parce que le temps viendra, ton argent va être sollicité. Pour ça, il faut d'abord le garder et le mettre de côté. Alléluia. Pour finir, je vais nous poser cette question. Pasteur, ok, maintenant j'ai compris que je dois protéger, sécuriser, garder et économiser mon argent. Maintenant, comment je l'épargne efficacement? Est-ce que je prends juste, je le mets de côté ou comment je fais? Des manières d'épargner de l'argent, ok? Il faut l'épargner de manière intelligente et sage, car c'est le titre du message, d'accord? La première chose à faire quand on veut commencer à épargner son argent, c'est établir un budget. Comment un budget? Parce que tout le monde, pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, on travaille ou du moins dans le mois, on fait rentrer de l'argent. Cet argent qui rentre par le biais de nos salaires, toutes sortes de revenus, de dons, etc. Cet argent constitue pour nous un budget. Dis avec moi un budget. Et ce budget, tu dois le connaître. Amen. Donc la première chose que tu fais d'abord, c'est d'établir un budget. Et regarde ce que Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 14, au verset 28. Jésus-Christ parle de budget ici. Et Jésus-Christ est quelqu'un de très intelligent. Il nous interpelle sur ce point. Il nous dit, « Ah, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » C'est encore certainement un bon Gabonais qui commence et qui ne finit jamais ses chantiers parce qu'il ne calcule pas ses budgets. Ça pullule chez nous, les trucs qui sont commencés et qui ne sont pas finis. Parce qu'on ne travaille pas avec des budgets. Ou bien, quand il y a des budgets, on a toujours des teignes et des mythes sataniques. Et bouffe ça. Je ferme la parenthèse au nom de Jésus. Donc, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient d'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut. Tandis que cet autre roi est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Jésus-Christ? Il nous dit que quand tu veux commencer à bâtir quelque chose, assieds-toi d'abord et calcule combien tu as besoin, combien tu as et de combien tu as besoin. Ok?
2017 s'annonce devant nous. Quels sont les objectifs que tu te fixes pour 2017? Et pour accomplir ces objectifs, de combien as-tu besoin? Combien est-ce que tu as en poche aujourd'hui? Combien gagnes-tu aujourd'hui? Okay? Qu'est-ce que tu veux avoir pour 2017? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Combien gagnes-tu aujourd'hui comme salaire et combien veux-tu gagner en 2017? Il y en a, vous êtes là, vous n'êtes pas satisfait de vos salaires, de ce que vous gagnez comme salaire. Vous n'êtes pas satisfait. Et vous dites, le pasteur a dit que 2017, ça va être fort. Ok, si moi, aujourd'hui, 2017, je gagne 400 000 francs par mois, je dis que 2017, je serai à 1,5 million. 2017 ne finira pas tant que je n'ai pas mes 1,5 million par mois. Si tu te bases sur le travail que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas ces 1,5 million. Car ce travail ne te fournit que 400 000 francs. Donc, il te faut encore trouver 600, 700, 1 300 000, c'est ça? 1 100 000. Donc, les 1 100 là, il va falloir que tu actives une autre activité, une autre banque pour faire entrer ces 1 100 000 là. Donc, tu te poses et tu vois ce que tu as en ta possession, ce que tu peux faire en 2017 pour faire entrer 1 100 000 en plus à côté. Et souvent, un des obstacles majeurs que l'on a quand on est employé, c'est que notre emploi bouffe tout notre temps. D'accord? Donc si notre emploi prend beaucoup de temps, et après, en sortant du travail, on est toujours fatigué, on n'a pas la force de faire une autre activité, eh bien il va falloir trouver une solution pour dégager du temps. Car le temps, c'est la vie, le temps, c'est l'argent. Donc si tu as un employeur qui te bouffe tout ton temps et ne te paye que 400 000 francs, trouve une solution. Ne me demande pas, pasteur, c'est quoi la révélation? Il n'y a pas de révélation là-dedans. C'est trouve une solution pour dégager du temps pour aller chercher ces 1 100 000. Amen. Car si tu ne trouves pas du temps et tu acceptes la fatalité que mon travail est si précieux que je ne peux pas dégager plus de temps, tu finiras avec 400 000 francs en fin 2017 et tu auras toujours les mêmes luttes, les mêmes problèmes, etc. C'est comme ça que certains restent 10 ans, 15 ans, 20 ans à des boulots où ils n'arrivent jamais à gagner plus. Parce qu'ils ne prennent jamais des décisions fermes et définitives de changer leur vie. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais à Paris, je faisais un boulot dans une grande société d'assurance et j'avais vraiment envie de changer ma vie. Et j'avais un salaire fixe qui se montait à peu près à 800 euros. Et en français, ça fait combien 800 euros 800 euros, c'était le fixe. En français, ça fait combien? Ça fait à peu près 500 000 francs. Ok. Et tout le reste de mon salaire, c'était essentiellement des commissions parce que j'avais un travail de commercial. Et j'avais vraiment envie de changer ma vie parce que je trouvais que ce que je gagnais ne me suffisait pas. Sauf que ce mois-ci, ça avait été vraiment difficile. Je réfléchissais beaucoup sur comment gagner plus d'argent. Ce mois-ci, parce que ça avait été difficile, je n'avais pas fait rentrer beaucoup de monde. Et là, le manager rentre dans la salle et il me donne nos fiches de paie. Et quand il me donne ma fiche de paie, je vois écrit 800 euros, 500. Ce qui me faisait mal, c'est que mon loyer était à peu près à 650 euros. Et j'avais en plus de ça un crédit sur le dos. Mon salaire ne suffisait même pas pour payer le loyer et le crédit. Donc, j'allais payer le loyer et j'allais même pas avoir assez pour payer le crédit. J'ai commencé à projeter seul sur mon ordinateur. J'ai dit, mais c'est que je continue à vivre comme ça? Ah, c'est quelle histoire ça? Premier au 31, j'ai travaillé, je gagne ça. J'ai dit, la vie chose là. Si tu veux, faut changer ta vie. Si tu veux changer ta vie, fais des choix. Dieu, c'est le seul travail que j'ai. Ah, moi, je t'ai déjà dit. C'est le seul travail que tu as. Qui t'a dit que c'est le seul travail que tu as? Ça, c'est ce que toi, tu dis. C'est pas ce que moi, je dis. Si tu veux changer, prends une décision. Sors de là. Bien aimé, il était à peu près 11h. Je me suis levé. Je suis allé voir mon manager. J'ai dit, je voudrais rencontrer le N plus 1, le patron. Monsieur. Je suis allé le rencontrer. Il m'a dit, alors ça va, le travail se passe bien? J'ai dit, non, ça va pas, monsieur. Il faut travailler plus, hein, tes collègues ils gagnent plus, hein, parce qu'ils se battent, tu vois. Donc moi je me bats pas. Si tu gagnes pas assez, si tu ne bats pas assez, hein, on donne des commissions supplémentaires à ceux qui rendent plus de produits. Donc comme tu n'as pas fait rentrer de produits, bah t'as que ce que tu mérites. Ok, je démissionne. Tu vas faire quoi? T'as pas de boulot? Est-ce que tu as trouvé un autre boulot avant? Je dis non, je vais trouver. Je crois en un Dieu. Je crois en un Dieu. Vas-y. Ce jour-là, je suis sorti de cette boîte, je n'ai plus jamais remis les pieds. Je suis rentré à la maison, je vais voir ma femme, j'ai dit, j'ai démissionné. Elle me fait, encore? J'ai encore démissionné. Parce que je me rappelle que cette période-là, j'avais enchaîné les emplois. C'est bizarre, j'avais une faveur, c'est que je ne faisais jamais plus d'un mois sans rester, sans activité. Je trouvais toujours un travail et je me rendais compte que j'arrivais jamais
à gagner ce que je voulais. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, arrête tes histoires et crée ta propre société. Tu pourras gagner ce que tu veux ensuite. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alléluia. Parce que je trouvais que les gens ne me payaient pas à la valeur que j'avais. Alléluia. Donc, il faut calculer ton budget. C'est très important de calculer son budget. Donc, toute épargne et toute dépense commence toujours par un budget. Le budget, pourquoi il est important? Parce qu'il te permet d'avoir une vision claire du futur et de ta capacité à épargner et bien entendu de tes possibilités financières. Dis avec moi le budget. Le budget, il te permet de déterminer ce que tu as comme charge, dépenses à faire dans le mois. Et pour savoir combien tu peux épargner, il faut que tu fasses un bilan budgétaire. C'est-à-dire faire le point sur ce que tu fais rentrer dans le mois. Ça commence d'abord par ça. Et beaucoup d'entre nous, on n'a pas pris le temps en 2016 de s'asseoir dans le calme et réfléchir sur ce qu'on gagne et combien on peut faire rentrer. Il y en a, vous êtes là, si je vous assure, vous avez la capacité de faire rentrer plus dans votre maison. Vous avez la capacité de faire rentrer beaucoup plus. Le problème, c'est que vous ne vous prenez pas au sérieux. Ou bien vous avez trop peur de faire certains choix. Là ici, ça fait trop longtemps que vous êtes en dessous de 500 000 francs. Vous êtes censé être à 1 million, 5, 2 millions, 3 millions par mois. Alors je vous annonce qu'à Libreville, gagner plus de 2 millions par mois, c'est vraiment facile. Oh, pasteur, c'est un peu prétentieux ce que tu dis là. Je t'annonce que c'est vraiment facile de gagner 2 à 3 millions par mois. C'est facile. J'ai essayé toutes les techniques et j'ai trouvé que c'était vraiment facile. C'est facile. Il y en a qui dit, pasteur, il faut que tu me donnes le secret. Oh, oser entreprendre. C'est facile. Car il y a trop d'argent à Libreville qui dort. Ouais. Facile. Moi, mon appel, mon mandat, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Que les gens constatent que, mais en fait, ils sont dans les problèmes. Ils sont en prison. Mais il y a longtemps que le gardien a ouvert la porte pour dire, c'est bon, tu es libre. Mais ils sont encore en prison. Ils ne veulent pas sortir de la prison. Le gardien a ouvert la porte. Tu peux sortir. Ah, vraiment. Avec moi le budget. Donc, une gestion sage et intelligente demande un respect strict de ce budget. Et avoir un budget te permet de maîtriser tes charges, bien entendu, et d'anticiper tous les imprévus qui vont venir devant. Donc, 2017, là, travaille avec des budgets. Il y a bien quelqu'un qui me prend la tête ici avec l'histoire du budget, c'est Madame Gaboulé, mon épouse.
Non. Ça, c'est combien? Non, pasteur, on fait ci. Non, c'est comme s'il faut déterrer, il faut arrêter les budgets. Je dis, oh!
Bien d'avoir des personnes qui sont calées sur ces choses-là. Hein? Alléluia. Ouais. Établir les budgets. Bilan budgétaire. D'abord, il commence par recenser toutes les ressources, c'est-à-dire tous les revenus que tu as, les salaires, les loyers, pour ceux qui touchent des allocations, des aides, pour ceux qui ont des actions, les dividendes, les indemnités, les honoraires pour ceux qui sont à leur compte, les bourses d'études pour les étudiants. Tu recenses tout ce que tu fais rentrer dans le mois. D'accord? Ensuite, tu détermines et tu fixes le montant de tes dîmes. Amen, je dis ça de manière prophétique, tes dîmes. La dîme est prise sur le salaire brut pour ceux qui ont un salaire et non le net. Dis avec moi, la dîme est sur le salaire brut. Amen. Comme ça, on ferme ce faux débat. Ainsi que sur toutes les entrées ponctuelles, tu dois toujours enlever 10%. Si c'est un don, une indemnité, un honoraire qui arrive, le revenu d'une prestation, un loyer, n'importe quoi, tu enlèves toujours 10%. Car Dieu vient toujours en premier. Alléluia. 3, tu fixes le montant de ton épargne de manière systématique, c'est-à-dire 15 à 20% de ce que tu as fait rentrer. Toujours. Mais pasteur, c'est un peu trop. Je ne sais pas trop comment je vais arriver à dégager ça. Parce que j'ai des charges, j'ai des crédits, j'ai des ci, j'ai des ça, etc. Ok. Je vais t'expliquer comment tu feras tout à l'heure. Mais une chose est sûre, c'est que ton épargne doit se monter en moyenne à 15 à 20% de ce que tu as fait rentrer. Mettons que tu as 1 million par mois, 100 000 francs de dîmes et 200 000 francs d'épargne, systématiquement. Après, on commence à investir et à dépenser. Mais ça, c'est systématique. 4, tu détermines les possibilités d'investissement et enfin, tu occupes de tes dépenses hebdomadaires et mensuelles. Mais c'est comme ça qu'on gère l'argent. Okay. Il y en a beaucoup d'entre nous, on a des problèmes d'argent, notamment avec les crédits, parce que tout simplement, nos crédits arrivent en premier et on ne peut pas prospérer. Il y a quelques semaines de cela, qui m'a fait sourire, c'est que le monsieur, je l'ai vu le week-end dernier, en début de semaine, pour lui apporter son argent. Et ça faisait plusieurs semaines que je devais lui donner l'argent que je lui devais. Mais pendant le mois, j'ai fait rentrer de l'argent. Sauf que quand je fais rentrer de l'argent, j'enlève d'abord un dîme automatiquement. Ensuite, j'ai mis de côté. Ensuite, j'ai pris une partie de l'argent et j'ai laissé sur le compte bancaire en disant ça, c'est pour tel projet. Et ensuite, j'ai commencé à dépenser dans la maison, les chats, etc. Et le reste qui restait, j'ai dit ça, c'est mon liquide, je garde. Et pendant ce temps, le gars m'appelle. Tu n'as toujours pas mon argent. J'ai dit non, je n'ai pas d'argent. Toi aussi. On me dit assumer, t'as pas mon argent. Hein? Tout l'argent que tu as fait, je t'ai laissé courir tout le mois, t'as pas mon argent. J'ai dit attends. J'attends que le chèque d'après rentre pour que je te paye. Non, 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 moi je veux mon argent. J'ai dit, tu attends. Ah non, je ne suis pas content. Tant pis. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Moi, je débarque chez vous. Tu vas venir faire quoi chez moi? Je débarque chez vous. Tu vas faire quoi? Je suis là. Tu fais quoi? Tu vas me frapper. Je t'ai dit, tu attends. Non, 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 moi, je ne suis pas content. Il était là, maintenant, il commençait à devenir nerveux comme s'il était possédé par un démon. Tu attends. Attends, par moi, un, j'ai Dieu, deux, j'ai moi-même, trois, j'ai ma famille et mes gosses, quatre, j'ai mon plaisir et mes projets, et ensuite cinq, j'ai toi. Il y en a, vous cédez à la pression, ah, bon, je le paye. T'as rien après. Ça fonctionne. Ah, mais parce que les dettes, c'est pas bon, tout ça. Je dis non, parce que je savais que l'argent arrivait dans quelques jours. Donc, j'ai dit, tu attends, tu vas supporter, est-ce que tu vas mourir? Attends. Quand l'argent est arrivé, tu es arrivé. Dès que je lui ai dit, oh non, non, toi là, tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. Il dit, oh pasteur, tu es pasteur, hein? Oh non, non, tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. Il dit, comment tu as pu me faire ça? Moi, ton partenaire dans les affaires, tu me fais ça. Me fais attendre comme ça. Moi, j'avais des projets. Il dit, tu attends. Car moi, je passe en premier. Car si on est devant une falaise et que Dieu demande de sauter dans le vide, moi, c'est toi que je pousse, moi, je ne saute pas. Oh, c'est pas une très bonne image. Allez, hein? Amen. Comment est-ce que je répartis mon budget? Ça, c'est très intéressant. Mon budget est d'abord composé de mes revenus. Ensuite, je me protège, je m'épargne, j'investis, ensuite je dépense et après je me fais plaisir. D'accord? J'épargne à hauteur de 30%. 10% ma dîme, 20% mon épargne. 10% en termes d'investissement, 10% en moyenne pour me faire plaisir. Le reste, je dépense. Amen. Il faut toujours répartir son budget comme ça. 10% la dîme, 20% l'épargne, 10% l'enveloppe d'investissement. Si j'ai 1 million, il y a déjà 400 000 francs ici qui sont partis. D'accord? Rien que pour Dieu et pour moi. Il reste 600 000 francs. Sur les 600 000 francs, je me gère maintenant. Okay? Si par exemple, j'ai 1 million par mois, je ne vais pas aller me prendre une maison qui vaut 600 000 ou 700 000 francs. Non, parce que je sais que sur les 1 million, j'enlève 100 000 francs la dîme, 200 000 francs l'épargne, 100 000 francs d'investissement, il me reste 600 000 francs. Sur les 600 000 francs, comme je sais que j'ai d'autres dépenses à côté, je prends un loyer à 200 000 francs ou à 150 000. Toujours, tant je gagne 1 million par mois, qu'est-ce que je vais dire ou pas? Toujours avoir la possibilité après de pouvoir me gérer en termes de liquidité et à côté consommer et me faire plaisir. Ah, cette enveloppe-là, consommation et plaisir, elle est importante. Dis-moi comment se faire plaisir. Il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut se faire plaisir. Si vous travaillez de janvier au mois de décembre, que vous ne vous êtes jamais arrêté de vous faire plaisir, vous allez être frustré. Parce que vous travaillez tout le temps, mais jamais vous faites plaisir. Comment se faire plaisir? Plaisir, c'est quoi? Se faire plaisir, c'est d'aller manger une bonne glace à Montrilis avec les enfants. Pas des glaces de Matiti, des bonnes glaces. Ah, tiens, manger les glaces de Montrilis, on fait un peu la publicité. On va couper ça à l'enregistrement, rassure-toi. C'est des bonnes glaces. Tu as le goût quand tu manges ça. Tu as l'onction qui descend. Tellement c'est bon. Il y a d'autres plaisirs aussi. Pour ceux qui peuvent voyager. Voilà, c'est les fêtes. Vous n'avez pas remarqué? Madame Gaboulot n'est pas là. C'est fait plaisir. Oups. Pour d'autres, allez vous balader. Vous êtes jamais allé aux États-Unis. Allez à Dubaï. C'est 300 000 francs un billet. C'est dur, 300 000 francs en ce moment-là. Oh, c'est dur, pasteur. Non, 2017, c'est possible pour toi. Allez te balader un peu ailleurs. Par un peu autre chose. Si tu n'as pas envie d'aller aussi loin, va en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, vite les pays où il y a la guerre. Je sais pas, va au Maroc, va voir un peu autre chose, voyage. Pasteur, c'est dur. Non, c'est pas si dur que ça. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Car si d'autres le font, toi aussi tu peux le faire. Et cette enveloppe-là, elle est importante pourquoi? Parce que tout simplement, tu as besoin de te détendre, tu as besoin de voir autre chose, tu as besoin de ça, ton esprit a besoin de ça. Tu vas tout le temps à être la tête dans le guidon, dans le boulot, etc. Tu as besoin de te changer les idées. C'est super important. Et tu vas même voir, quand tu vas commencer à voir autre chose, ton esprit va s'élargir. Et tu vas avoir plein d'idées pour plein de projets, etc. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à voir plus loin que le bout de notre nez parce qu'on ne sort pas assez. Quand je dis sortir, là, je parle du voyage, mais même juste aller te balader. Beaucoup d'entre vous, vous êtes Gabonais, de chez Gabonais, grand-père arrière, grand-père Gabonais. Jamais vous êtes allé à la Pointe de Nuit. Parce que la Pointe de Nuit, c'est pas le truc des riches, là. Non, c'est pas pour les riches, c'est pour les Gabonais. C'est magnifique, la Pointe de Nuit. C'est magnifique. Et là, la plage est transparente. C'est pas la plage de la Sabia ou du Lissemba. La plage est belle. Il n'y a personne à l'horizon. Tu es tranquille. Tu es dans le calme. Le sable est plein. Tu es là. Tu as l'impression d'être en Amérique du Sud. Tant c'est au Gabon. Ça coûte combien? 5 000 à 10 000 francs pour traverser. Et aller te balader. Mais jamais tu fais ça. Oh, parce que moi, j'ai peur de l'eau. Je traverse par la mer. Je n'ai rien pour toi. Ouais. Moi, je me fais plaisir dans la vie. Parce qu'on travaille tellement qu'au bout d'un moment, on finit par être stressé. Il faut se détendre. Dis avec moi, il faut se détendre. Il faut se détendre. Hein? Ça veut dire que dans ton planning de l'année, là, mets de manière prophétique, 3 semaines, 2 à 3 semaines, tu mets vacances. Tu mets ça bien, tu surlignes ça. Et puis tu dis, Seigneur, je vais dans quel pays là, cette année? Tu mets vacances. Regarde, voici le genre de plaisir que tu dois te faire chaque année. 1, tu dois aller en vacances. Tu vas quelque part où tu te détends. 2, trouve toujours un endroit où tu vas aller dans un pays à une bonne conférence chrétienne où tu vas voir quelque chose. Tu vas à Chilo, chez Oyedepo, tu vas à un personne chrétien à Paris, tu vas quelque part, je ne sais pas où, tu sors du Gabon et puis tu vas manger la parole, tu vas aux États-Unis là-bas, je ne sais pas. Et puis tu reviens, non, pasteur, on a une grande vision, alléluia, vraiment. Hein? Si tu es marié, tu trouves un temps, bon, nous on a déjà notre propre conférence sur le mariage, amen. Tu fais la conférence sur le mariage ici, mais sinon tu peux aller ailleurs avec ta femme et ton conjoint quelque part, faire quelque chose entre couples, entre mariés. Tu vas en croisade avec ta femme, croisade pour les couples. Les femmes, celles qui sont mariées, quand vous rentrez à la maison, tu dis, chérie, le pasteur a dit que 2017, là, tu dois m'emmener quelque part en couple, un bel endroit, on va voyager, tout ça, mets déjà l'argent de côté. Marie, je vous mets la pression. Parce que la manière dont tu as commencé à la draguer, là, il faut continuer ça dans le mariage. Il y en a des qui ont mis la bague au doigt, c'est comme si on dirait hey, maintenant le petit lutin est parti en vacances. Non, non, non. Il faut continuer ce que tu as commencé là quand vous étiez fiancé. Les femmes, il faut veiller à ça. Hein. Si le gars commence à faire n'importe quoi, là, il n'a plus le temps. Non. Si là, quand il te courtisait, c'était les bons restaurants, etc. Dans le mariage, c'est puissance 10. Il a toujours t'emmené manger dans les bons restaurants. Cher. Oh, mais pasteur, parfois on n'a pas de moyens. Non. Sinon, il va travailler. La fille d'autrui, tu dois t'emmener manger dans les bons endroits, les endroits frais, chers, où on mange les crevettes, tout ça, les trucs bizarres. Là. Oui, il faut aimer les bonnes choses dans la vie. Alléluia. Je vous taquine, non. Vous êtes là, vous ne suivez pas. Même les femmes ne disent pas amen. Je suis en train de vous défendre, vous n'êtes vraiment. On dirait que vous aimez les gigolos, quoi. Oh. Non, il faut aimer les bonnes choses. Quand il vient, tu le regardes et tu dis, est-ce que tu peux? Parce que moi, la qualité, là, c'est haute qualité. Est-ce que tu peux? Hein? Donc, va te préparer. Alléluia. Amen, on avance. 2, établir sa capacité d'épargne. On va finir par ça. J'établis ma capacité d'épargne comment? Proverbe 27, verset 1 dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. D'accord, la Bible française courant dit, ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ignores ce qui se produira aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu détermines ta capacité d'épargne, c'est-à-dire ce que je suis capable de mettre de côté, pas que je sois aussi trop optimiste. D'accord? Il faut que je me dise, il peut tout arriver dans la vie, donc il faut que je sois très prudent. Toujours que je me dise, oui, tout ira bien, etc. Je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger. Non. Il faut être sage dans la vie. En 2017, il peut aussi arriver des coups durs. Donc, tu dois aussi être prévoyant sur ce coup-là. Amen. Il y a 3 principes clés. 1, tu optes pour une vision protectionniste de l'avenir. C'est-à-dire, tu es prudent, tu prévois les imprévus,
prévois des baisses de revenus ou de chômage, tu peux prévoir aussi un accident ou des dépenses supplémentaires qui peuvent survenir. Tu es prudent. Amen. 2, tu réduis au maximum tes dépenses. Exemple, je dépense 50 000 francs par mois pour mes soins de beauté. Est-ce que c'est nécessaire? Si ce n'est pas nécessaire, les 50 000 francs là rentrent en épargne. Tu gardes quand même un petit limite pour quand même rester belle. Donc, une chose est sûre, c'est que tu regardes toutes les dépenses que tu as et tu vois là où tu peux dégager de l'argent. D'accord? Ecclésiaste 6, au verset 9, vous dit « Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Il nous dit ici, en d'autres mots, qu'il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a et non faire des dépenses inutiles dont nous n'avons pas besoin. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on fait tous les jours qui pourtant peuvent être de l'épargne. Mais, ouais. Le troisième principe, c'est faire la différence entre ce qui est indispensable, utile, agréable et inutile. Je fais une bonne analyse financière de toutes les sorties d'argent et je récupère le plus petit franc possible. Le plus petit franc possible, je le récupère pour le mettre de côté. Philippiens chapitre 4, verset 11. Paul nous dit, j'ai appris à être content en toutes circonstances de ce que j'ai. Donc, si je ne manque de rien et que je suis dans le confort, je n'ai pas besoin de dépenser plus pour mon confort. C'est pour cela que quand vous allez chez les vrais riches, ce sont des gens, vous les trouvez dans une profonde humilité. Ils n'ont pas beaucoup de grandes choses, ce qui garde leur argent. Les vrais riches, les gens qui savent garder leur argent, vous ne les verrez jamais aller acheter des voitures à 3 millions de dollars, je ne sais pas quoi, comme ça. C'est rare. Souvent, ils ont bien de très très bonnes qualités qui valent cher aussi, mais ils savent modérer. Les vrais riches ne vivent pas dans la luxure. Vivent dans le confort. Ah, dans la luxure. Amen. Ouais. Ah, dans la luxure. J'ai appris à être content en toutes circonstances de ce que j'ai. Et en d'autres mots, chaque fois que l'argent doit sortir, il faut toujours te poser la question, est-ce que c'est nécessaire que ça sorte? Est-ce que j'en ai besoin? Si j'en ai pas besoin, j'épargne cet argent. Alléluia. Avec moi, épargne. Ouais. Ensuite, quand j'analyse ma capacité d'épargne, je décide, selon le bilan budgétaire que j'ai fait, de comment je vais épargner mon argent. Mon budget, par exemple, une fois que je l'ai fait, si mon budget est excédentaire, c'est-à-dire je me rends compte que mes revenus sont supplémentaires à mes dépenses, donc en d'autres mots, je ne suis pas quelqu'un d'endetté, je n'ai pas de problème, etc. Bien, si je me rends compte que mon bilan budgétaire est positif, je prends cet argent que j'ai en plus tous les mois, je l'épargne et je prévois de l'optimiser. Si je me dis, ça peut être épargné pour un projet immobilier, ça peut être épargné pour acheter quelque chose. Mais une chose est sûre, c'est que je fais tout pour optimiser cet argent. J'ai 1 million et mes dépenses mensuelles ne se montent qu'à 400 000 francs. Donc j'ai 600 000 francs que je peux épargner tous les mois. Je ne vais pas me dire, c'est bon, les 600 000 francs là, je vais mettre ça dans l'enveloppe de plaisir et puis je vais dépenser 600 000 francs par mois. Non. Tu mets 100 000 francs dans le plaisir et les 500 000 francs, tu les mets de côté. Il y en a d'autres, ils ont un autre problème, c'est que leur bilan budgétaire est négatif. Leurs dépenses sont supérieures à ce qu'ils gagnent. Ils ont des problèmes. C'est souvent ceux-là, quand tu les vois, ils ont le front fermé là, à l'église de culte. Ils sont énervés. Hein? Non, je taquine. Oh. Eh bien, pasteur, comment je fais? Voilà, j'ai des dépenses supérieures à mes revenus. J'ai un crédit et sur le dos. Je ne sais pas comment faire, etc. Eh bien, tu vas t'efforcer de respecter le processus divin. D'accord? Prime, épargne, investissement, dépense. Tu vas t'efforcer de le faire. Ensuite, tu vas bien entendu épargner quand même, mais ton épargne sera moins. Mais tu vas quand même épargner, même si c'est beaucoup moins que ce que tu avais prévu. Tu épargnes quand même. Alors souviens-toi toujours de ce principe. Celui qui n'épargne pas au jour des problèmes ne sera pas épargné. On épargne. Tu réduis ton train de vie. S'il faut que tu prennes le taxi ou le clando, tu prends le taxi ou le clando. Là, par exemple, quand vous voyez votre pasteur qui n'a pas de voiture, pensez que le pasteur n'a pas d'argent. C'est que le pasteur, il gère son argent et il ne le dépense pas n'importe comment. Mais bien entendu, très important, je rembourse mes dettes.
Car si j'ai des dettes en cours, je m'assure de les rembourser. Car la dette, c'est une porte au diable. Il ne faut jamais laisser une dette courir. Donc, dès que tu as la possibilité de rembourser une dette, rembourse. D'accord? Même si ça prend du temps, mais rembourse toujours tes dettes. Ne fais pas comme ceux qui fuient les dettes. Il ne faut jamais fuir les dettes. Il faut assumer ses responsabilités et rembourser ses dettes. Car Dieu n'est le débiteur de personne, nous dit la Bible dans le livre de Job. Amen. Et la Bible dit, soyez en paix, autant que vous le pouvez les uns avec les autres. Soyez en paix, il faut rembourser ses dettes. Par Dieu. Et je me pose tout un tas de questions. Ai-je à ma disposition tous les documents nécessaires pour bien établir mon bilan budgétaire, pour faire le point sur ce que je gagne? Sinon, alors je dois chercher à avoir tous les papiers qu'il faut. D'autres questions du style, vais-je bientôt bénéficier d'une augmentation de salaire? Si oui, gloire à Dieu. Et de combien approximativement sera cette augmentation et qu'est-ce que je vais en faire? Une question du style, est-ce que j'envisage de remplacer ma voiture dans les prochains mois pour en acheter une autre? Quel sera le coût de cette voiture? Est-ce que j'ai besoin d'acheter une voiture aujourd'hui ou pas? Question, ma femme est enceinte. Quels vont être les problèmes, les prochaines dépenses du foyer? Comment est-ce que je vais assumer ça? Comment est-ce que je vais m'organiser au niveau financier? Quels sont les services payants fournis par ma banque dont je dispose et que je peux supprimer? Dites-moi la banque. Ceux qui ont des comptes bancaires, surveillez bien vos comptes bancaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les banques prennent. Ah, moi, je suis un gars, je scrute toujours mes relevés bancaires quand ils arrivent. Il y a toujours des petits 5 000, 10 000, 3 000 qu'on te prend à gauche, à droite. Et tout ça, quand tu fais le calcul, ça fait beaucoup d'argent que tu peux mettre de côté. C'est des bons voleurs, les banquiers. Ouais. Un jour, il y a un riche, un homme riche, qui est en train d'agoniser. Et il demande à toute sa famille de sortir de la chambre. Toute sa famille leur dit, sortez de la chambre, je ne vais pas mourir devant vous. Donc, tout le monde sort en pleurant. Et là, il dit à son major, il dit, appelez mon banquier et mon fiscaliste. Pourquoi, monsieur? Appelez mon banquier et mon fiscaliste. Le banquier et le fiscaliste arrivent et ils s'asseyent chacun de chaque à gauche du lit et à droite du lit. Et ils sont là tout intrigués. Ils disent, mais pourquoi ce monsieur a refusé de mourir devant sa famille? Et il voulait absolument mourir au milieu de son banquier et de son fiscaliste. Et là, le monsieur répond, parce que Jésus-Christ est mort entre deux pécheurs, donc j'ai envie de mourir entre deux pécheurs. Parce que quand tu as de l'argent, s'il y a bien des gens qui vont sucer ton argent, ce sont les banquiers et les fiscalistes. Hein? Je suis abonné à une revue, je ne sais pas, Canal Plus, un magazine. Est-ce que je ne peux pas me contenter d'Internet au lieu de payer un abonnement inutile? J'ai Canal, est-ce que je suis obligé de prendre la formule pleine à 40 000 ou à 50 000? Non, parce que moi je veux absolument Canal Sport avec les matchs de football. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça va changer ta vie si tu n'as plus de sport à la maison? Oui, pasteur, arrête. Tu n'en mourras pas. La carte bancaire que j'ai, est-ce qu'elle correspond à mes besoins? J'ai une carte bancaire orange, dorée, noire ou gris. Est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi je ne pourrais pas avoir une simple carte de paiement ou de retrait? Là, je m'adresse à certains types de personnes. Mes dépenses sont supérieures à mes revenus. Quelles sont celles dont je peux me passer et me serrer la ceinture? À quoi correspondent les montants débités sur mes relevés bancaires? Ça, c'est pour les femmes. J'utilise Clarins pour mes soins de visage. Est-ce que c'est obligé? Ne puis-je pas utiliser une autre marque de qualité moins chère? Non, pasteur, moi je mets que du Clarins ou bien du Clinique. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas aller prendre des marques gabonaises? Pasteur, il n'y en a pas. Sinon, le maquillage risque de tomber quand je vais transpirer. Hein? Je veux faire un achat, suis-je obligé de prendre un crédit? J'ai besoin de me meubler. Je viens d'aménager, est-ce que je suis obligé d'aller prendre un crédit? J'ai besoin d'une voiture, est-ce que je suis obligé d'aller prendre un crédit? J'ai besoin de voyager, est-ce que je suis obligé de prendre un crédit? Est-ce que j'ai besoin de prendre un crédit pour payer mes études? Les jeunes, quand vous rentrez à l'école, pas de crédit. Ne vous engagez jamais sur la marche des études avec un crédit. Ça va poursuivre toute la vie. Vous allez finir les études, commencer à travailler avec un crédit sur le dos. Commencer la vie active, pauvre et endetté. Pas bon. Mais très important ça. Donc, en d'autres mots, fuyez les crédits. Dis ça avec moi. Fuyez les crédits à la consommation à tout prix. Non, dis-le encore bien. Fuyez les crédits à la consommation à tout prix. Dis-le encore une fois. Fuyez les crédits à la consommation à tout prix. J'insiste dessus. Parce que les Gabonais sont champions des crédits. Trop de foyers gabonais souffrent à cause des crédits. Le crédit, attention, ce n'est pas diabolique. C'est le crédit à la consommation qui est diabolique. Ça, ce n'est pas bon. Ça. Comme son nom l'indique, à la consommation. Tu n'as pas besoin de prendre un crédit pour consommer quelque chose. Tu as juste besoin de travailler ou d'économiser un peu pour le consommer. Amen. Seul un prêt intelligent ou encore un crédit intelligent pour un investissement. Dis avec moi investissement. Un investissement sage et intelligent peut être permis. Toutefois, il faut quand même consulter Dieu avant. Parce que quand tu rentres dans le monde de la richesse, tu te rends compte que les riches utilisent beaucoup les crédits pour faire des investissements intelligents. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement intelligent? Par exemple, un prêt bancaire pour un investissement locatif dont le remboursement sera effectué par les loyers. Prends un prêt pour investir dans un projet immobilier et ce sont les, quand je mets cette maison en location, ce sont les loyers que la personne verse qui rembourse le crédit. Moi, c'est totalement un dollar pour moi. Ça, c'est intelligent. Amen. Voilà. Il faut que je finisse dans le temps. Donc, c'est important d'établir sa capacité d'épargne. Et enfin, en trois, j'organise mon épargne. Dis que moi, j'organise mon épargne. Et là, j'introduis la session après sur le compartiment de l'investissement. Comment j'organise mon épargne? Pourquoi? L'épargne ne consiste pas à mettre de l'argent de côté sans savoir ce qu'on va en faire. Pourquoi? Parce que épargner doit se faire avec des objectifs. Avoir une bonne gestion financière, saine et intelligente, se fait avec une vision claire de ce qu'on veut obtenir dans l'avenir. D'accord? C'est très important. Quand on épargne, on se fixe des objectifs. Dis avec moi des objectifs. Et tu vas te rendre compte que l'épargne doit se décomposer en trois points. Il y a d'abord, premièrement, l'épargne de précaution. Ensuite, il y a l'épargne de dynamisation. Et après, il y a l'épargne d'anticipation. Là, je suis très pratique maintenant. C'est pas je prends mon argent et puis je mets. Non, tu vas te rendre compte que tout l'argent que tu vas mettre, tu vas mettre de côté, tu vas l'organiser. J'épargne pour ça, j'épargne pour ça. Et tu crées des enveloppes. Si tu épargnes sur des comptes bancaires, tu crées des sous-comptes pour chaque projet. L'épargne de précaution, c'est laquelle? C'est l'épargne liquide, c'est l'argent liquide. C'est de l'argent qui doit être disponible à n'importe quel moment. Et à long terme, cet argent liquide que tu épargnes, tu dois arriver à faire en sorte que cette enveloppe constitue 3 à 4 fois ton salaire. C'est l'objectif de cette épargne. Cette enveloppe est très importante parce que cette enveloppe est très très utile, notamment pendant les moments difficiles. Quand il y a par exemple un accident, boum, on te dit sort 2 millions. Quand tu as besoin de ces 2 millions, qui est un imprévu, tu vas les prendre dans cette enveloppe. Mais l'épargne de dynamisation, c'est là que tu commences à investir ton argent. C'est de l'argent que tu mets de côté pour le placer. Ce n'est pas de l'argent que tu vas placer pour ensuite manger. Non, tu places et tu le laisses faire des petits longtemps. Cet argent, tu le places sur des enveloppes qu'on appelle des actions, des obligations, OPCVM. Quelqu'un me dit, mais c'est quoi OPCVM, pasteur? Je ne connais pas OPCVM. Là, c'est un peu technique, mais tu vas voir que c'est un mot très, très simple. OPCVM veut simplement dire organisme de placement collectif sur des valeurs mobilières. Ce sont des produits que les organismes financiers proposent pour que tu puisses épargner ton argent de manière intéressante pour gagner des intérêts dessus. D'accord? Ou encore des assurances vie. Si aujourd'hui ton enfant, par exemple là cette semaine j'étais chez un organisme financier, je suis allé me renseigner sur leurs assurances vie parce que je voulais ouvrir des assurances vie pour mes deux filles. D'accord? Ma fille, la première a 7 ans, la deuxième elle a 10 mois. Je ne vais pas attendre qu'elle ait 18 ans pour commencer à penser à ses études. J'ouvre un contrat d'assurance vie et je mets de l'argent dessus. Et ça fait plein de petits bébés. Je laisse ça pendant des années. Et quand je me réveille pour récupérer ça, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Vous me suivez? Et toutes sortes de portefeuilles, d'actions, etc. On aura des ateliers, on ne pourra pas parler de tout ça au cul parce que c'est trop, trop long et compliqué. On aura des ateliers en 2017 sur ces choses-là. Ce sera notamment organisé par les hommes d'intégrité, par la grâce de Dieu. Même si je sais que les femmes aussi peuvent aussi s'impliquer là-dedans. Mais tout le monde ici, à la maison du bâtisseur, doit tous avoir un peu d'argent dans ces choses-là. Amen. Non, pasteur, moi ça ne m'intéresse pas. Je t'assure que tu vas mettre ton argent ici. Même si c'est moi qui dois venir chercher ça dans ta poche pour mettre ça là-bas. Parce que j'en ai marre de voir la pauvreté dans l'église. Et enfin, la troisième enveloppe, c'est l'anticipation. Les projets de vie personnelle, la retraite, l'école des enfants ou encore la maison. Ok? Donc quand j'épargne, j'organise mon épargne de cette manière. Et cette épargne organisée de cette manière, elle se fait sur la base d'objectifs. Un, les objectifs à court terme, c'est tout ce qui touche à la liquidité. Dire à n'importe quel besoin, je peux avoir besoin de cet argent. Les objectifs à moyen terme et les objectifs à long terme. Les objectifs de moyen terme, c'est tout ce qui touche à l'investissement. Je veux récupérer mon argent dans quelques mois ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Alléluia. C'est très important. Et les objectifs à long terme, c'est de l'argent que je mets de côté pour les projets vraiment importants, les projets de vie. Par exemple, pour beaucoup, vous êtes là, fixez-vous un objectif que d'ici 5 ans, 6 ans, je démarre ma maison. Et pour démarrer ma maison, il me faut quand même un petit capital pour démarrer, que je n'ai pas aujourd'hui. Commence à l'épargner aujourd'hui. Si dans 5 ans, pour démarrer ma maison, il me faut 5 millions, il me faut 10 millions, je fais le calcul par rapport à ce que tu peux mettre de côté. Sur 10 ans, tu calcules combien tu dois mettre de côté tous les mois pour avoir la somme. Et tu te bats pour la mettre de côté. Et cet argent, tu n'y touches pas. Mais là, il pense qu'un jour, il va être nommé, il va avoir beaucoup d'argent, et puis c'est là qu'il va construire sa maison. Non, ça commence petit à petit. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis fait comme ça. Donc, il faut que j'épargne de manière intelligente. Et quand j'épargne de manière intelligente, j'ai des objectifs. Les objectifs, ils sont sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Amen. Je fais quelques petits tableaux pour nous donner toujours des images. Pour les objectifs à court terme, en quoi ça consiste? Se constituer un capital, valoriser mon capital, l'investir, avoir des revenus supplémentaires, ou bien minimiser des impôts. Si par exemple, j'ai une société, me protéger au niveau social, avoir des garanties sociales, mettre de côté pour pouvoir me prendre certains types d'assurances de qualité, des assurances privées par exemple, ou bien transmettre mon patrimoine. Les objectifs de court terme, c'est plutôt pour se constituer un capital très rapidement, pour ensuite investir. Les objectifs de moyen terme, ce sont plutôt les objectifs du style, je ne sais pas si tu crois ici, mais tout ce qui touche à l'investissement. D'accord, les projets de sur 2 ans, sur 3 ans, on place notre argent et on espère récupérer de l'argent. Très très rapidement. Par exemple, il y a un frère dont Osé Entreprendre qui nous témoignait il y a quelques mois qu'il avait pris 300 000 francs par curiosité. Ça l'avait intéressé, les histoires d'action là. Il était parti déposer son argent l'année dernière dans une boîte de la place. Il a déposé 300 000 francs et puis il avait même oublié qu'il avait placé ça. Un an après, on l'a rappelé il n'y a pas longtemps pour lui dire: monsieur, vous avez 600 000 francs sur le compte. Il a gagné 300 000 francs de plus. Parce que son argent avait été placé sur des placements dynamiques et il a quasiment fait 100%. Et puis là, il me fait: pasteur, si j'avais placé 2 millions, 3 millions, je dis bah, parce que tu n'y croyais pas, tu pensais que c'était de l'arnaque. Alors qu'aujourd'hui, tu aurais beaucoup plus d'argent. Et les objectifs de long terme, c'est tout ce qui touche à la transmission de patrimoine, à avoir des revenus supplémentaires. Par exemple, ceux qui veulent investir dans l'immobilier, mettre des maisons en location, etc. etc. Amen. Et ces objectifs personnel, tu peux les calculer aussi en fonction de notre âge. Jusqu'à 25 ans, l'argent que je mets de côté, ça concerne beaucoup les étudiants. L'argent que je mets de côté, c'est plus pour me constituer de la liquidité. D'accord? Je n'ai pas plus de possibilités. Je peux, le peu que j'ai, par exemple ceux qui ont des bourses, 80 000 francs, 100 000 francs, 150 000 francs, je mets de côté 10 000, 20 000, 20 000. C'est juste pour avoir de la liquidité. De 25 à 45 ans, je continue à me constituer de la liquidité pour faire des investissements. Mais à côté, je me sécurise aussi. Je sécurise ma famille, je sécurise mes enfants, je me sécurise moi personnellement. Je prends des assurances en cas d'accident, si je dois me faire hospitaliser, etc. Je me sécurise au maximum. Ensuite, jusqu'à mes 50 ans, 60 ans, tout l'argent que je mets de côté, c'est pour me constituer du capital, pour pouvoir investir cet argent et valoriser ce capital pour que ça me rapporte des intérêts. Ou encore, pour ceux qui ont des sociétés, pouvoir ne plus payer beaucoup d'impôts, parce que ceux qui ont des sociétés payent des impôts que les autres ne payent pas. Ou encore, sécuriser ma famille. Et pour ma retraite, parce que là on est à 60 ans et à plus de 60 ans, pour ma retraite, bien entendu, je valorise mon capital, je sécurise, je mets de côté, je transmets mon patrimoine à mes enfants, etc. etc. Alléluia. C'était très important ce que je vous ai dit là. Si vous avez remarqué, c'était très pratique aujourd'hui. D'accord? Le but, c'est lequel? Le but, c'est de nous préparer. C'est de nous préparer. Parce que tout simplement, si on n'a pas de budget, si on n'a pas de vision claire, si on n'a pas de plan financier de ce qu'on veut faire de notre vie, on n'aura rien. Alléluia. Parce que Dieu se prépare un peuple sage, intelligent, puissant et riche, alors il demande à ce qu'on commence à transmettre les valeurs d'épargne et d'investissement. Et je t'annonce que 2017, tout ce que j'ai dit là, si tu t'appliques à cela, tu commenceras à voir la manifestation dès 2017.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et acclamer le Seigneur? Oh oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever? Nous allons prier. Je voudrais que tu penses à tout ce qui a été dit. Pense à tout ce qui a été dit. Pour certains, ce sont de bons rappels. Pour d'autres, c'est tout nouveau. Mais une chose est sûre, Salomon nous dit, Proverbe 8, 32, « Maintenant donc, mes fils, mes enfants, écoutez-moi, heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison, moi la sagesse. Car celui qui me trouve a découvert la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Alléluia. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus, pour ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci encore, Seigneur, parce que, ô Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, tu nous as amenés à nous intéresser à ces choses, à les comprendre et à les mettre en pratique, Seigneur. Ces informations, Père de grâce, sont tellement importantes, Seigneur, pour préparer nos vies, pour sécuriser nos vies, pour, Seigneur, anticiper l'avenir, Père de grâce. Car malgré la crise, malgré, Seigneur, les difficultés par lesquelles, Seigneur, le pays passe, Père de grâce, tu nous as placés, Seigneur, en Goshen. Comme tu as placé Israël en Goshen, alors que le pays était frappé, Seigneur, de toutes sortes de crises, de famines et de crises économiques, le peuple d'Israël prospérait. Ainsi, Père de grâce, de manière prophétique, tu nous fais comprendre que malgré les crises de ce pays, malgré les crises qu'il y a à l'extérieur, tu veux nous faire prospérer parce que la solution, la clé, Seigneur, du salut, Seigneur, se trouve en Jésus-Christ. Mais qui annoncera Jésus-Christ? Qui révélera Jésus-Christ au monde? Qui prendra soin des démunis, Seigneur? C'est l'Église. Et cette Église, Seigneur, tu nous fais comprendre qu'elle a besoin d'argent. Elle doit devenir sage et intelligente financièrement. Cette Église, ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les jeunes qui la composent, Seigneur. Et cette Église, nous les bergers, nous avons la responsabilité, Seigneur, de leur transmettre, Seigneur, ces valeurs de sagesse, ces connaissances. Alors béni sois-tu, Père, de ce que tu équipes, Seigneur, ô Dieu, ton peuple, afin qu'il aille à l'extérieur pour changer la donne, pour influencer, Seigneur, une église forte, une église puissante, une église prospère, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu n'oublies pas ceux qui sont en reste, ceux, ô Dieu, qui ont des difficultés financières, ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui, Seigneur, plongent dans le crédit et qui ne s'en sortent plus. Merci, Père, parce que de manière miraculeuse, Seigneur, à cause de leur obéissance, Seigneur, à ces principes, tu vas, Seigneur, ô Dieu, créer des situations qui vont faire en sorte qu'ils vont sortir de ces situations au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes les personnes qui passent par des difficultés, Seigneur, dans leurs finances. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu actives, Seigneur, des fleuves, des sources d'eau vive au niveau financier qui vont déferler sur l'Église. Tous ceux qui iront, Seigneur, signer des contrats verront des percées surnaturelles se produire. Tous ceux qui se lanceront en affaires verront des percées surnaturelles se produire. Parce que nous annonçons que la saison dans laquelle nous entrons est la saison du miracle, la saison de la faveur divine, la saison de la grâce, la saison des percées financières de toutes sortes. Ainsi, nous le décrétons de manière prophétique, que nous serons, Seigneur, de cette race de la nouvelle création, cette Église, non seulement qui n'est pas endettée, mais qui en a en abondance, Seigneur, pour prendre soin des démunis, pour prendre soin des plus faibles, pour bâtir des écoles, pour bâtir des chaînes de télévision, pour annoncer l'Évangile à grande échelle, pour faire de grandes choses. Tu lèves, Seigneur, dans cette Église, des personnes qui ont des moyens pour investir dans les affaires, des moyens pour investir en masse dans l'agriculture, des moyens pour investir
investir dans toutes sortes de secteurs économiques. Tu vas lever, Seigneur, oh Dieu, toutes sortes de personnes qui vont être des instruments entre tes mains pour changer la donne et pour démontrer au monde que l'Église est la lumière du monde et le sel de la terre. Oh, est-ce qu'on peut tous élever nos voix et rendre grâce à Dieu?
Été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.